France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Et jusqu'à 13h45, nous voudrions parler avec vous de cette question qui occupe sans doute la maison. Comment parler de cette guerre en Ukraine avec les enfants et les adolescents? Deux invités pour le faire. Bonjour Antoine DeVos.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre au centre hospitalier de Bayeux, membre du conseil scientifique de l'école des parents et des éducateurs. Et bonjour Pauline Leroy.
Bonjour.
Rédactrice en chef adjointe du Petit Quotidien, un journal qui s'adresse aux 6-10 ans et déjà pas mal d'appels au standard. Alors on y va tout de suite. Bonjour Marie.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, moi je suis maman de 3 enfants, 11 ans et 10 ans. Et en fait, voilà, ils témoignent et ils parlent de la guerre et de ce qui se passe. On ne leur montre pas trop les images, mais par contre, on écoute un peu la radio. Néanmoins, ils en parlent aussi à l'école, mais ils se posent des questions, à savoir pourquoi cette guerre, pourquoi le président russe agit comme ça, pourquoi c'est compliqué, qu'est-ce qu'il décide et comment se font les choses. Et aussi, voilà, les armes, pourquoi tel pays envoie des armes, l'armée, etc. Donc, oui, ils s'interrogent un peu sur le sujet, mais par contre, ils nous évoquent moins le fait que ça puisse arriver ici, chez nous, dans notre pays.
Merci pour cette intervention, Antoine DeVos. Je retiens plusieurs choses de ce que nous dit Marie. D'abord, elle dit, on ne montre pas d'image, on écoute la radio. On a affaire à des enfants de 10 et 11 ans. Est-ce que c'est une bonne piste?
Alors, c'est vrai que tout de suite, le poids des mots... Et ce que nous font les mots est différent de ce que nous font les images.
Oui.
Une des difficultés, en effet, c'est de comment ne pas rester choqué, sidéré par les effets des images que l'on peut voir. Lorsqu'on voit des visages souffrants, lorsqu'on voit des corps parfois mutilés, lorsqu'on voit des personnes qui sont dans des situations extrêmement périlleuses ou des bâtiments éventrés, on voit parfois des images de ruines qui sont de dévastation qui ne sont pas sans effet sur ce que l'on peut ressentir. Et donc toute la difficulté, on pourrait dire, un des enjeux, à mon avis, concernant le soutien que l'on peut apporter aux enfants, est de réussir à faire passer des images au récit. Alors la radio, elle a l'avantage
Je peux me permettre, Antoine DeVos, est-ce qu'il y a un âge en dessous duquel vous dites « pas d'image » pour donner un repère? Ou c'est compliqué peut-être.
C'est compliqué. On sait que plus les enfants plus jeunes ils sont, moins ils ont la capacité de pouvoir recevoir et de pouvoir traiter, surtout assimiler les images. Toute la difficulté, c'est de pouvoir digérer quelque chose qui est digeste, en fait.
Oui.
Quand on a des images qui sont choquantes, on est choqué et donc on n'a plus la capacité de pouvoir penser.
Oui.
Donc c'est vraiment important de pouvoir s'appuyer sur la mise en récit, les mots, le texte, le contexte, de façon à inscrire, et je crois que c'est un peu ce que disait Marie tout à l'heure, c'est-à-dire de réussir à inscrire ce que les enfants, en fait, tout de suite, ces enfants appellent, c'est comment on peut inscrire ces histoires-là, ces mots-là, dans une histoire qui est plus grande, c'est-à-dire dans des conflits géopolitiques qui sont pas d'hier, qui sont pris dans des histoires relationnelles, qui sont donc politiques, qui sont très complexes.
Essayez de mettre ça dans une trame, et ce qui permet de, évidemment, quand il y a des questions, on y répond, on ne laisse pas les questions sans réponse, j'imagine.
Voilà, avec aussi, on a le droit de dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment les choses vont arriver.
On peut dire je ne sais pas.
Je crois que c'est important que les adultes puissent s'autoriser à partager leurs inquiétudes, les peurs par lesquelles ils sont traversés, c'est-à-dire que l'enfant peut s'appuyer sur la reconnaissance que les adultes ont de leurs émotions.
Pauline Leroy, il y a aussi un élément de réponse dans une édition à venir du Petit Quotidien que vous avez eu la gentillesse de nous passer avant. C'est l'édition du 5 mars. Il y a un petit encadré à la une. Alors d'abord, il y a un dessin où on essaye de passer par le dessin. Et puis un petit appel. Enfant, ne lis pas ce numéro plus difficile que d'habitude tout seul. Fais-toi aider par un adulte. On ne laisse pas l'enfant seul, que ce soit face à des images, des mots ou des questions sur cette guerre.
Oui, nous, au Petit Quotidien, on s'adresse à un public d'abonnés en général. Donc, on arrive quand même chez des familles et dans des écoles où il y a eu une démarche de venir chercher un support d'actualité. Oui. Mais pour autant, cette actualité en ce moment est quand même tellement particulière qu'on conseille aux enfants de ne pas lire leur journal tout seul, ce qu'ils sont capables de faire tout le reste de l'année sur tous les autres sujets qui sont en général beaucoup plus légers. Oui. Là, on leur conseille en effet de se faire accompagner, parce que nous, on fait un contenu journalistique qui s'adresse du coup à une masse d'enfants. On ne peut pas, nous, anticiper la réaction de chaque enfant individuellement, selon ses émotions, l'histoire de sa famille, sa propre personnalité. Chaque enfant va recevoir ce type d'informations différemment. Et là, il n'y a que des gens de la famille qui peuvent l'aider, en fait.
Et je note que vous passez pas mal par le dessin, hein.
Oui, au petit quotidien, c'est notre façon de traiter finalement toutes les informations, mais c'est encore plus important sur des sujets qui sont comme ça très difficiles et très angoissants. C'est qu'en fait, il faut justement rendre l'information digeste. Donc, on passe par pas mal d'astuces, entre guillemets, et le dessin en fait partie. Sur le premier numéro qu'on a fait cette semaine pour vraiment expliquer les bases presque géopolitiques du conflit, on est aussi beaucoup passé par la carte. Moi j'ai pensé que c'était très important que pour comprendre ce qui se passe en Ukraine, de tout simplement visualiser sur une carte du monde la position de l'Ukraine, qui a les pays occidentaux à sa gauche et la Russie à sa droite. Oui. Voilà. Donc en effet, le dessin, la carte, l'infographie, c'est des éléments qui sont très utiles pour nous pour rendre l'information compréhensible pour des petits de 6 à 10 ans.
Et quelques extraits de cette édition à venir. À cause de la guerre, tu ressens peut-être de la peur, de l'inquiétude, de la colère, de la tristesse. Si tu as mal au ventre, si tu fais des cauchemars, si tu as envie de pleurer, c'est normal. Même les adultes sont stressés. Pour te soulager, ne garde pas ces émotions pour toi. Parle-en dans ta famille ou à l'école. Écris, dessine ce que tu ressens et pose les questions qui t'angoissent. Aucune d'elles n'est bête. Samaël, au standard. Bonjour Samaël.
Oui, bonjour.
Vous avez une fille de 9 ans, je crois.
Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai une fille de 9 ans, une fille de 4 ans. Oui. Et hier, ma grande de 9 ans m'a demandé un peu de but en blanc si c'était d'accord pour qu'on accueille des Ukrainiens. Elle était prête à leur laisser la chambre, qui est la seule chambre qu'on a dans notre maison qui est en travaux actuellement. Et je me suis retrouvée à devoir lui expliquer que ça allait sûrement pas être possible parce qu'on n'avait pas les bonnes conditions d'accueil. Elle m'a demandé ce qui était possible de faire pour aider, pour pas rester sans rien faire. Et je n'ai pas su quoi lui répondre. Et même si, comme vous le disiez juste avant, c'est ok des fois de dire je ne sais pas, là j'aimerais vraiment pouvoir lui apporter une réponse parce que moi-même, je n'ai pas envie de répondre on ne peut rien faire.
Antoine Devos, qu'est-ce qu'on peut répondre à Samaël? Je sens un peu de, comment dire, d'angoisse dans la voix de cette maman.
Bah, déjà, je trouve que, en fait, ce que vous soulignez, ce qu'elle souligne, c'est vraiment l'impuissance, en fait, à laquelle on est confronté lorsqu'on est surpris, désarçonné, bouleversé par ce qui se passe et par ce qu'on entend, par l'anticipation aussi, parce qu'évidemment là il s'agit finalement d'anticiper sur ce qui pourrait arriver. Donc on entend parler de menaces nucléaires, de troisième guerre mondiale, on entend parler de flux massifs de personnes qui arriveraient dans pour fuir le conflit armé. Et donc en effet je trouve toujours les enfants très aidants parce que finalement ils nous resituent, disent bah qu'est-ce qu'on peut faire alors, puisque en fait on peut reconnaître déjà qu'on est tout à fait impuissant et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire, mais j'aurais envie moi de renvoyer la question à sa fille, c'est-à-dire de reconnaître son envie d'aider. Et ça, je trouve que c'est quand même assez admirable. Donc, elle a envie de d'y travailler, de penser quelque chose, de faire quelque chose de ce qui arrive et de ce par quoi elle est touchée. Et même s'il y a des conditions comme celle-là, par exemple d'accueillir des Ukrainiens dans sa maison, ça n'est pas possible. Il y a d'autres choses envisageables. Quelles seraient les autres possibilités? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait se rapprocher d'associations qui viennent en soutien humanitaire? Est-ce que ce serait écrire quelque chose sur le sujet, en parler aussi avec les autres élèves dans la classe ou avec des personnes du voisinage? Est-ce que ce serait fabriquer quelque chose? je crois que...
Orienter l'envie d'aider vers d'autres pistes, autrement dit.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment essayer de transformer l'émotion pour créer quelque chose de façon à ne pas rester dans cette position, oui, qui serait celle de l'impuissance, en fait.
Hein. Ce que j'ai perçu, Antoine DeVos, dans la question de Samaël, peut-être que je me trompe, mais c'est aussi une peur de décevoir sa fille. C'est-à-dire, sa fille a cet élan de générosité et dire c'est pas possible. Il y a aussi une peur de décevoir, d'être le parent qui est pas à la hauteur. J'ai entendu ça. Peut-être que je me trompe. Je sais pas si Samaël est toujours en ligne avec nous.
Oui, je suis toujours en ligne.
Est-ce que je me trompe dans mon interprétation? Il y a aussi ça dans votre question, la peur de décevoir votre fille ou pas?
Eh bien, je vous avouerai que j'y avais pas pensé, mais maintenant que vous en parlez, oui, c'est possible. Peut-être pas tant décevoir, mais plutôt vraiment de faute d'avoir une réponse à lui apporter, la peur justement de casser cet élan que vous disiez, que je trouve beau. Et,
oui. Voilà. Antoine DeVos.
Ouais, moi c'est vrai qu'on peut, les enfants ont l'avantage du rêve, en fait, entre guillemets, hein. C'est-à-dire qu'ils ont ils vont voir très grand les choses. Alors les adultes, nous, ben on connaît les contingences, un contexte qui est parfois, ben c'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait désirer. Mmh. Maintenant, dire que ça on peut pas le faire, mais il y a d'autres choses de possibles. On soutient finalement toujours la capacité, le désir d'aider, de réparer, mais on peut fabriquer d'autres choses. Et je crois que c'est aussi intéressant de renvoyer parfois de poursuivre le dialogue avec l'enfant, c'est-à-dire qu'on se retrouve pas dans des situations où l'enfant il dit tiens moi j'aimerais bien ceci, et puis ah bah non ça c'est pas possible, et puis après c'est fini. Alors comment on pourrait soutenir en leur disant mais attends, ça c'est pas possible, mais il y a peut-être d'autres choses de possibles, j'y ai pas encore réfléchi, tu me surprends avec ta question, mais essayons d'y réfléchir, ouais, ensemble, et voyons ce qu'il est possible de faire dans la situation qui est la nôtre.
Maggie au standard, bonjour Maggie, je soumettrai votre question à Pauline Leroy. Nous vous écoutons.
Eh bien, moi, je suis une petite fille de 88 ans.
Oui.
Et justement, je me mets beaucoup à la place de ces pauvres enfants qui sont sous les bombes et dans l'angoisse, et enfin, dans la guerre. Et je me rappelle énormément bien, et depuis toujours, de mes souvenirs à moi, lorsque nous descendions à la cave, qu'il y avait cette sirène lugubre et tout cela, et les adultes qui nous emmenaient dans cette cave. Et je me disais, mais est-ce qu'ils sont bien sensés, ces adultes? Est-ce que on va pas être donc si on est bombardé, si nos maisons tombent, et est-ce qu'on va pas être enterrés vivants dans notre cave? J'avais cette hantise.
Et ils ne vous expliquaient pas suffisamment, c'est ce que vous nous dites, Marguerite.
Il y a 80 ans à peu près, on ne parlait pas aux enfants, on pensait qu'ils suivaient, et, enfin tout au moins, ce souvenir-là, et je trouvais que la logique des adultes était un petit peu légère, un petit peu courte, et moi je me disais ben il faudrait, non je pensais pas qu'il devrait m'expliquer, je pensais même pas, mais me rassurer, me dire
ouais, bien
ça
sûr
ne durera pas toujours, enfin j'étais très 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 angoissée, je l'ai conservée toute ma vie cette angoisse, enfin avec des possibilités de raisonnement actuelles.
Bien sûr. Merci, voilà. Merci Marguerite pour votre intervention. Pauline Leroy, ça amène une question. Est-ce que dans le petit quotidien, vous faites de l'histoire, puisque il y a des résonances avec d'autres conflits, vous faites beaucoup d'histoire aussi pour expliquer d'où ça vient?
Oui, bien sûr. Et puis dans les questions, parce qu'on a proposé à nos lecteurs de nous envoyer leurs témoignages, leurs sentiments et leurs questions. Dans les questions qui revenaient, il y avait justement assez souvent cette peur de la Troisième Guerre mondiale. Et du coup, on leur a rappelé que si tout le monde parle de Troisième Guerre mondiale, c'est parce que la Première et la Deuxième ont été vécues dans les familles, en fait, et que nous, nos lecteurs, ils sont peut-être concernés par leurs grands-parents, arrière-grands-parents, qui ont eux connu une guerre plus jeune, donc forcément on parle d'histoire au sens des manuels scolaires, mais on parle d'histoire familiale aussi, c'est des choses qui se transmettent.
Merci à tous les deux. Antoine DeVos, j'avais une dernière question, il nous reste vraiment une poignée de secondes. Je me dis que ces derniers temps, les enfants ont encaissé une pandémie, ils encaissent les prévisions apocalyptiques du GIEC, et maintenant cette guerre en Ukraine, ça fait beaucoup.
Ah oui, ça fait beaucoup pour eux, ça fait beaucoup pour les adultes aussi qui les accompagnent, et qui, je crois que ça vraiment ça résonne avec une angoisse qui est inhérente à l'existence humaine, qui est l'angoisse de mort, quoi. Donc ça demande vraiment à pouvoir élaborer à la fois la culpabilité que l'on peut éprouver, mais aussi ce qu'on fait aussi de ces émotions agressives.
Oui.
Je crois que la reconnaissance aussi de ces émotions agressives dans des situations qui sont parfois difficiles à vivre, c'est aussi nécessaire que de reconnaître le désir de réparer et d'aider. Et je crois que c'est l'un va avec l'autre, et que c'est peut-être par là qu'on peut soutenir au mieux les enfants quant à l'élaboration et la digestion de ces moments qui sont très difficiles à vivre.
Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez répondu en partie, Antoine De Vos, à la remarque d'Alice. Ma fille de 10 ans revient de l'école en lui disant il faut tuer Poutine. Comment lui expliquer que ce n'est pas une solution? Voilà, reconnaître la part agressive, ça fait partie du travail. Merci beaucoup à tous les deux. Il est 13h45.